Bienvenue sur le podcast d'Aérospatium, le podcast consacré à l'industrie aéronautique et spatiale. Nous sommes le 10 juillet, le lendemain du premier lancement d'Ariane 6. Stéphane Barinski, le rédacteur en chef d'Aérospatium, revient sur ce succès. Je suis Caroline Bruno, cofondatrice du magazine avec lui. Bon Stéphane, hier tu as tenu 6 heures sur la chaîne Stardust pour le lancement d'Ariane 6. On est le 10 juillet aujourd'hui, il s'est passé quoi hier finalement ?
Alors ne boudons pas notre plaisir, hier c'était un succès très très attendu. Ariane 6 a décollé, elle a décollé à l'heure dite. Tous les événements qui pouvaient poser soucis se sont déroulés sans problème. Dès le début, le lanceur a décollé et les bras se sont ouverts, donc elle n'a pas arraché tous les bras cryos détruisant le pas de tir au décollage, donc c'était déjà une très très bonne nouvelle. Les boosters ont fonctionné parfaitement, parfaitement symétrique, parfaitement parallèle, aucun problème, ils ont été séparés. L'étage principal a donné tout ce qu'il pouvait correctement, il a été séparé. Pour la première fois, on a eu des magnifiques images de cette séparation, puisque donc ils avaient réussi à caser des caméras embarquées. Le deuxième étage, tout nouveau, s'est allumé. Le moteur Vinci, premier allumage dans l'espace, impeccable. L'APU, le petit générateur de poussée supplémentaire, s'est allumé pour permettre au Vinci, donc au moteur du deuxième étage, de faire un deuxième allumage. Ça a permis de circulariser l'orbite. On a pu larguer les petits satellites qui étaient à bord. Magnifique. La mission principale a été un plein succès. On a eu une petite mauvaise surprise sur la fin, puisque la mission devait se poursuivre avec démonstrations du fonctionnement sur la longue durée de l'étage supérieur, avec un réallumage de cette petite unité qu'on appelle l'APU. Et là, il y a eu une anomalie. Donc plutôt que de tout faire exploser, l'APU s'est arrêtée. Ce qui fait qu'on n'a pas pu avoir de manœuvres supplémentaires, et notamment, on n'a pas eu la désorbitation qui était de mettre fin à la mission. L'étage principal le second étage d'Ariane 6 devait retomber dans le Pacifique. Il est toujours sur orbite et avec lui les deux petites capsules qui devaient elles aussi être larguées pendant le retour. On peut dire à 95-98%, c'est un succès. On a une anomalie qu'il va falloir étudier. Il y a des gens qui sont en train de dépouiller des tonnes et des tonnes de données qui ont été collectées pour comprendre ce qui s'est passé. C'est un vol de qualification, c'est un vol d'essai. Donc le but, c'est de tester tout ce qu'on ne peut pas tester au sol et de comprendre tout ce qui s'est passé. Et pour le moment, c'est même pas un sujet, c'est un succès.
Alors, c'est un succès. Ça faisait longtemps quand même qu'on l'attendait. Sans vouloir faire les rabat-joie, Ariane 6 a 4 ans de retard. Pourquoi ? Est-ce que c'était particulièrement compliqué ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a raté ?
Sur la question des 4 ans, je dois quand même rappeler que tous les nouveaux lanceurs ont au moins 4 ans de retard en ce moment. En début d'année, il y a eu le premier vol du Vulcan. Le Vulcan était censé être disponible en 2019, donc on est en 2024. Donc, quelque part, on n'a pas à rougir.
Alors, le Vulcan, on rappelle ?
Le Vulcan, c'est le nouveau lanceur de United Launch Alliance, qui est l'autre grand fournisseur de lancement aux États-Unis. Il n'y a pas que SpaceX, il y a aussi ULA. ULA, c'est le fournisseur de référence du Pentagone. Il devait faire un nouveau lanceur sans participation russe, parce que le lanceur qu'ils avaient avant avait un des moteurs russes. C'était prévu pour 2019, ça a été en 2024. Voilà. Bon. Alors, il faut bien voir que jusqu'à présent, chaque fois qu'on mettait une nouvelle Ariane sur le pas de tir, on avait déjà la suivante dans le tuyau. Ça n'a pas été le cas avec Ariane 5, puisque juste avant le premier vol d'Ariane 5, il y a eu la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'Union soviétique, et l'Allemagne qui devait financer l'Ariane suivante en grande partie, elle a d'abord financé sa réunification. Et donc finalement, on s'est passé d'une Ariane suivante pendant un certain temps. Quand on a commencé à s'en inquiéter, il s'était passé beaucoup, beaucoup de temps, puisque donc, il faut quand même se rappeler que le développement d'Ariane 5, c'était les années 80. Là, on a lancé le développement d'Ariane 6 dans les années 2010. Ça fait 30 ans, c'est plus d'une génération. Ça veut dire que les gens qui avaient développé Ariane 5, quand il a fallu développer Ariane 6, ils n'étaient plus là. Et donc, il y a tout un tas de compétences qu'il a fallu réacquérir parce que finalement, on ne les avait plus tout à fait. Bon, ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, c'est que on avait une architecture industrielle totalement différente. Avant, Ariane 5 était un lanceur conçu par des agences avec les industriels qui s'alignaient derrière pour faire ce que les agences avaient demandé. Là, pour des raisons historiques un peu complexes, c'est un lanceur qui a été conçu par l'industrie. L'industrie a investi elle-même dans l'affaire. Donc il a fallu s'organiser d'une manière inédite. Et comme on est en Europe, c'est pas simple.
Qui sont les plus grands industriels, justement ?
Alors, Ariane 6, c'est le bébé d'une entité qui s'appelle Ariane Group. Voilà, Ariane Group qui a été fondée par Airbus et Safran, donc ancien donc grand partenaire du programme Ariane, pour proposer Ariane 6 telle qu'on la connaît aujourd'hui, par opposition à un concept qui avait été décidé par les politiques, proposé par les politiques, qui, elle, était une Ariane 6 quasi entièrement à poudre, donc un propergol solide, qui était conçu pour continuer à lancer des satellites institutionnels européens, même s'il n'y avait plus aucun accès au marché, et pour protéger la filière poudre pour la dissuasion française. Le problème, c'est quand on a vu arriver cette Ariane 6, qui s'appelait PPH à l'époque, elle a déplu à tout le monde. Elle a déplu aux Allemands parce qu'elle était française, elle a déplu aux Italiens parce qu'elle était française, et elle a déplu aux Français parce qu'en fait, tout ce qu'il y avait dedans était fait par les Italiens et les Allemands. Elle faisait une croix définitive sur tout ce qui était ce qui se fait aujourd'hui aux Mureaux, par exemple, tout ce qui était aussi grosse propulsion liquide en Europe, et donc elle mettait un terme à tout un tas de possibilités de développement pour l'avenir. Donc les industriels se sont mis ensemble, ils ont dit il faut qu'on fasse une contre-proposition, ils l'ont faite en 2013, les gouvernements l'ont acceptée, donc elle a été décidée en 2014 par l'Agence spatiale européenne. Et tous les gens qui avaient bossé sur l'ancienne version, notamment au CNES, ils l'avaient un peu mauvaise, parce qu'ils ont été, quelque part, montrés du doigt et court-circuités par les politiques qui les avaient mandatés avant. Donc déjà, ça a commencé dans des mauvaises conditions. Ensuite, en 2014, quand le programme a été lancé, il a été lancé avec l'idée que l'industrie investirait dans Ariane 6, mais aussi que les institutions garantirait un certain niveau de lancement par en faisant comme que ça se faisait aux États-Unis, c'est-à-dire commander des lanceurs par lot. Voilà, on vous assure que là, on va vous commander 25 lanceurs, on ne sait pas encore ce qu'on va mettre dessus, mais on aura des choses à mettre, donc on en commande 25, vous pouvez lancer la production de 25, c'est tranquille, vous êtes sûr de les vendre. Le problème, c'est que cette garantie n'apparaissait pas clairement dans ce qui a été signé à la ministérielle de 2014, ce qui fait que quand le patron d'Ariane Group est allé voir l'Agence spatiale européenne pour dire ben voilà, moi j'ai des investissements, il faut que je voie avec les banques et tout. On lui a dit oui, mais en fait, ça c'était pas écrit, donc en fait non. Et ça a causé déjà des premiers retards parce que les investissements n'ont pas pu être faits en temps et en heure, puisqu'il n'y avait pas les garanties et que les banques n'allaient pas suivre. Ça, c'était les premiers points. Donc ensuite, après, il y a eu des problèmes techniques, tout simple, parce qu'il y a des choses qui ont été compliquées à développer. J'en ai évoqué deux. J'ai évoqué les bras cryo au décollage sur Ariane 5 qui s'ouvrait avant l'allumage des moteurs, ce qui fait que si pour une raison X ou Y, ce qui est arrivé plusieurs fois, le moteur démarrait et s'arrêtait, eh ben on avait des gros soucis pour vidanger le lanceur. Ça a l'air bête comme ça, mais ça prenait c'était dangereux, ça prenait du temps. Donc sur Ariane 6, on a décidé que les bras s'ouvriraient juste après l'allumage du moteur, avec le risque que s'il ne s'ouvre pas, le lanceur embarque tout. Ce qui aurait été désastreux. Donc ça a été très très long à mettre au point. On a perdu un an rien que sur ses bras. Je parlais de l'APU, cette petite unité qui permet le rallumage de l'étage supérieur. C'est quelque chose de totalement nouveau, ça n'existe pas ailleurs. Hein. Ailleurs, on utilise d'autres moyens. Et ça aussi, ça a mis un an de retard. Bon, on a eu de la chance, c'est que les deux ont mis un an de retard en même temps, donc les retards ne se sont pas accumulés. Donc là, déjà, on avait glissé, donc c'est sûr qu'on ne tiendrait pas le 16 juillet 2020. Qui était la date prévue initialement. Et là-dessus est arrivée la pandémie de Covid. Pandémie de Covid qui, en Guyane, a été très très mal gérée, puisqu'on a confiné la Guyane en même temps que la métropole, alors que la pandémie est arrivée là-bas en décalé. Ce qui fait qu'on a arrêté les travaux en Guyane à un moment où on aurait pu les continuer, et qu'on les a repris dans des conditions sanitaire extrêmement complexe, ce qui fait qu'on devait travailler avec des moitiés d'équipe, qui en plus pouvaient travailler, à cause des règles sanitaires, travailler de manière deux fois moins productive. Donc, d'un seul coup, ce qui prenait un jour avant, s'est mis à en prendre quatre. Et alors là, votre calendrier, vous ne le tenez plus. Là-dessus, il y a aussi d'autres effets particuliers très européens qui font que, on a testé les tâches supérieures dans des conditions de laboratoire, qui ne sont pas des conditions d'industrie. C'est-à-dire qu'entre deux tests, ça prend un temps incroyable parce que les équipes, elles travaillent avec des heures de bureau et que tout prend beaucoup, beaucoup plus de temps parce qu'on n'est pas dans une unité opérationnelle. Et c'est pour ça que ces essais ont pris incroyablement longtemps, surtout quand il a fallu avaler des problèmes. Voilà. Donc, on est en retard, mais tout le monde est en retard. Qui se rappelle aujourd'hui que l'entrée en service d'Ariane 5 avait 4 ans de retard ? Ce qui est important, c'est ce qui va arriver maintenant.
On a beaucoup parlé du retour géographique comme étant un problème. C'est quelque chose qui revient pas mal en ce moment. Est-ce que ça a été aussi une des causes du retard ?
Alors, le retour géographique, c'est une règle très importante en Europe. Ça existe depuis les années 60. C'est que tous les pays qui participent aux programmes spatiaux européens, ils mettent de l'argent, et en proportion de combien ils mettent, leur industrie a un retour sous forme de contrat. Voilà, c'est un peu une forme de faire de la solidarité quand on n'est pas réellement tout à fait solidaire ensemble, mais bon, ça a l'énorme avantage de fonctionner depuis des années. Là, on a changé un peu d'univers, puisqu'on passe de quelque chose qui marchait très très bien sur des programmes scientifiques à une notion de faire quelque chose de concurrentiel, compétitif dans un milieu industriel. Donc l'industrie a pris la direction du programme, mais on lui a dit « mais vous respectez le retour géographique ». Ce qui fait qu'on a le problème d'un maître d'œuvre, Ariane Group, qui se retrouve à avoir des sous-traitants qu'elle n'a pas choisis, puisqu'ils lui sont imposés par le retour géographique. Bon, beaucoup d'entre eux sont ceux qu'elle aurait choisis, mais le problème est là. C'est pas le maître d'œuvre qui a choisi avec qui il travaillerait. Et surtout, le montant des contrats de ces sous-traitants est garanti par le retour géographique. Ce qui fait que lorsque Ariane Group dit à tout le monde « Bon, si on veut tenir les objectifs, il faut réduire les coûts de 10%, les sous-traitants sont tout à fait en capacité de lui dire « Ben en fait non, non, parce que moi, mon retour géographique prévoit que non. » Et donc, ça devient extrêmement dur à gérer, parce que vous avez... Donc, un maître d'œuvre qui est coincé entre ses donneurs d'ordre à lui et ses sous-traitants, et qui, lui, n'a plus aucune marge de manœuvre. Donc, ça a été très, très, très dur à gérer, et ça a créé beaucoup de frictions et de tensions, ce qui fait que ce retour géographique, finalement, a été remis en cause par l'ESA elle-même. Le patron de l'ESA, Joseph Aschbacher, m'avait dit il y a quelques mois, on aurait dû totalement lâcher la bride à l'industrie, il regrettait vraiment. Et là, sur le programme qui se met en place, ce qui s'appelle le European Launcher Challenge, qui va commencer sur les petits lanceurs, le retour géographique sera modifié, c'est-à-dire que les maîtres d'œuvre choisiront leurs sous-traitants et les États financeront après coup et pas a priori.
On reviendra sur la question de l'avenir de la filière et l'avenir d'Ariane et d'Ariane 6 dans un prochain podcast. Mais pour l'instant, on se pose vraiment la question de la vie aujourd'hui d'Ariane 6. Est-ce que c'est le bon lanceur ? Pour le bon moment, est-ce qu'il va avoir un marché ? Est-ce qu'il va réussir à avoir la position de leader qu'avait Ariane 5 ?
Alors bon, la position de leader qu'avait Ariane 5, on oublie, le monde a changé. Le monde a changé. Avant, on était dans un magasin de porcelaine, on faisait tous notre porcelaine, c'était très bien, on était les meilleurs pour faire de la porcelaine. Maintenant, il y a un éléphant dans le magasin de porcelaine. Et la question que se pose, l'éléphant c'est SpaceX évidemment, la question que se posent tous ceux qui font de la porcelaine, c'est comment continuer à faire de la porcelaine dans ces conditions ? Donc, Ariane 6 est-il le lanceur qu'il nous faut ? C'est le lanceur qu'on a, déjà, premier point. Deuxième point, il a été défini en fonction des besoins connus des institutionnels européens et des opérateurs de satellites qui étaient clients d'Ariane Espace. Les opérateurs de satellites ont encore écrit récemment à l'Agence spatiale européenne pour leur dire « il faut vraiment qu'Ariane 6 arrive, on en a besoin ». Donc, il y a un marché, et ce marché ne se limite pas au lancement institutionnel. La question aujourd'hui, c'est est-ce que ce marché va permettre de faire les 11 à 12 lancements qu'on a prévus, puisque tout est dimensionné dans la filière Ariane 6 telle qu'elle est aujourd'hui, pour faire environ 11 à 12 lancements par an. Avec ce système-là, on peut espérer être rentable n'est pas forcément le bon mot, car il faut quand même se mettre dans la tête que l'activité des lanceurs n'est pas et n'est jamais une activité rentable. C'est une activité qui permet d'avoir une industrie pour faire des satellites, d'avoir des opérateurs, d'avoir des moyens spatiaux autonomes qui permettent de gérer des politiques, c'est grâce à Ariane qu'on a une politique de défense autonome, qu'on a une politique environnementale autonome, qu'on a des ressources économiques qui dépendent de nos satellites. Et si on ne l'avait plus, on serait inféodé aux gens qui nous vendraient les lancements ou qui nous vendraient les satellites.
Ce dont tu es en train de parler, c'est qu'en fait, Ariane est d'abord et avant tout un moyen de souveraineté. Néanmoins, la question du prix revient tout le temps. On entend tout le temps dire que SpaceX arrive à faire des lancements qui sont beaucoup moins chers. La défection de Metsat pour un lancement l'année prochaine, donc Metsat a quitté Ariane 6 pour aller se lancer sur SpaceX, ça montre quand même qu'il y a une question de prix qui ne peut pas être complètement négligée. Je repose ma question, est-ce qu'Ariane 6 va avoir un marché? Est-ce que c'est le bon lanceur pour le bon moment?
Alors, Ariane 6 va avoir un marché pour une raison très simple. Les opérateurs détestent les monopoles. Et aujourd'hui, il y a un monopole de fait de SpaceX. Donc, les opérateurs veulent avoir le choix. Et même, ils détestent les duopoles. Hein, il y avait un duopole avant. Ils détestent les duopoles. Et ce qu'ils veulent, c'est avoir le choix entre deux ou trois systèmes. Aujourd'hui, SpaceX, c'est vrai, SpaceX, c'est pas cher. Mais comme me disaient certains opérateurs qui volent avec SpaceX, c'est pas cher, mais on sait ce qu'on paye. Hein, je vais encore me faire des amis, c'est un peu comme Ryanair. Ryanair existe, ça n'a pas mis Air France ou Lufthansa en dehors du marché. Il y a de la demande pour différents types de systèmes. Ensuite, est-ce qu'on peut concurrencer SpaceX sur les prix? Je ne pense pas que ce soit possible, car on n'est pas du tout dans le même univers. SpaceX fait ses lanceurs dans une usine à Hawthorne, dans la banlieue de Los Angeles. Ils ont des fournisseurs, mais ils n'aiment pas qu'on en parle. Mais tout est intégré dans une seule usine. Point barre. Nous, on est en Europe, il y a 13 pays qui participent. Ces 13 pays ont chacun des usines qui produisent des éléments. Parfois, il y a des éléments qui, en fonction des intégrations, traversent des frontières, la même, plusieurs fois, parce que tout se déplace et tout. Et à la fin, on finit par intégrer un morceau au Murau en France, un morceau à Brême en Allemagne, les coiffes à Emmen en Suisse. Tout le monde embarque sur un bateau pour aller à Kourou, où on finit d'intégrer tout ça ensemble. Intrinsèquement, on est forcément par rapport à ce qui se passerait si on le faisait tout dans la même usine, on est au moins 20% plus cher. Et ça, ça date pas d'aujourd'hui, ça date déjà avant. Sur Ariane 5, ce qui se passait, c'était qu'il y avait un pot commun qu'on appelait EGAS, où tous les pays mettaient de l'argent pour financer ce qu'on appelait une aide à l'exploitation d'Ariane. Et ça s'appelait EGAS, c'était European Guaranteed Access to Space. Parce que ce qu'on payait, c'était la pérennité de l'accès garanti à l'espace. C'est un succès pour la souveraineté européenne. On récupère notre autonomie d'accès à l'espace qui avait disparu pendant 9 mois, qui a fait que certains satellites sont partis. Là aussi, on a joué de malchance, parce qu'on avait prévu que ça pourrait être compliqué, et on avait un plan B avant, c'est-à-dire que on avait le Soyouz pour lancer certains satellites, notamment les satellites Galileo de navigation, et ce genre de choses, et personne n'avait vu venir qu'on aurait à la fois la pandémie de Covid et la guerre en Ukraine, et qu'on perdrait, finalement, on prendrait beaucoup plus de retard que prévu, qu'imaginer, et qu'en plus, on perdrait notre plan B, et on n'avait pas de plan C. Donc, ça a été assez compliqué. Aujourd'hui, on est en bonne voie. En dépit de la petite anomalie qui a été enregistrée sur la PU, tout le monde, hier soir, était d'accord pour dire que le prochain vol, ça serait dès qu'on aurait dépouillé les données. Donc là, il y a 4 mois de dépouillement de données, à peu près. Donc, ça nous amène à un lancement en décembre, avec une charge utile institutionnelle française, à savoir un satellite d'observation optique militaire. Entre-temps, on aura eu 2 vols de Vega, si tout va bien. Donc l'Europe est de retour, la souveraineté européenne est de retour, et c'est très important à un moment où, aujourd'hui, il y a une occupation de l'orbite, occupation physique, par les États-Unis, qui dictent leurs lois et sur tout un tas de problèmes de pérennité du milieu, puisque aujourd'hui, sur 10 000 satellites sur orbite, il y en a 2/3 qui appartiennent à Elon Musk.
Eh ben merci Stéphane de ce résumé sur ce qui s'est passé hier avec le premier lancement d'Ariane 6, qui est, on le rappelle, quand même un succès. Nous reviendrons sur les questions d'Ariane, de concurrence, de SpaceX, mais également sur tous les autres acteurs mondiaux, puisqu'il y en a énormément. C'est un marché et un secteur qui ne cesse de se transformer dans les prochains épisodes de notre série. Merci à tous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à découvrir le magazine Aérospatium sur www.aerospatium.info. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant. Aérospatium ne vit que de ses lecteurs. À bientôt pour la suite de notre série sur Ariane, et d'ici là, nous vous souhaitons un bel été.